What a world we're living in. What a world we're sharing. What a world. But what a shame. What a wonderful thing. But what a beautiful thing.
Radio G 101.5 FM.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure de retrouver la case de Seb et votre dose quotidienne de 9e art. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Cette heure, je me réveille et dehors il fait clair. Fais du balai, il faut que la maison brille. Je frotte, je range et je chasse la poussière. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Ensuite je lis un livre et même deux ou trois. J'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Puis des guitares, tricot, gâteau et quelquefois je me demande où est la vraie vie. Des puzzles, fléchettes et cookies. Pas de mâcher, danse classique, échec et mat. Poterie, théâtre de marionnettes et bougies. Gymnastique, art plastique, cordes et Pascal m'épate. Puis je relis mes livres, je rêve d'aventure. J'ajoute de la couleur, il en manque, j'en suis sûre. Ensuite je brosse et brosse ma chevelure. Dans cette prison j'ai grandi. Et je me demande, et demande, et demande, et demande où se cache la vraie vie. Et demain soir s'élèvent les lumières, comme c'est le jour de mon anniversaire.
Bonjour à toutes et à tous. Comme vous venez de l'entendre, mes journées de confinement sont plutôt bien remplies et c'est pourtant l'heure de vous faire profiter du meilleur du 9e art. Nous sommes le lundi 20 avril et comme tous les lundis sur le 101.5 de Radio G, bienvenue dans cette nouvelle case de Seb en pas tout à fait direct, confinement oblige. Comme d'habitude, j'en profite pour saluer mes compagnons bien au chaud chez eux, j'espère, ainsi que vous, chers auditeurs. Au menu ce soir, manga, comics et franco-belge, comme d'habitude, et ce n'est pas parce que j'enregistre seul à mon domicile que je ne pourrai pas avoir en plus quelques guests. Ce sera la surprise. Allez, ne changeons pas nos habitudes et commençons tout de suite avec des news. Nous l'attendions, l'annonce est désormais officielle, la 21e édition de la Japan Expo n'aura pas lieu cette année. Suite à l'annonce présidentielle prolongeant le confinement et annonçant que les événements culturels avec un public nombreux ne pourraient pas se tenir au moins jusqu'à la mi-juillet, l'équipe organisationnelle de la Japan Expo a réagi en annonçant sur son compte Twitter le report de cette 21e édition en 2020. C'est peut-être l'occasion de faire coïncider les chiffres. très actif sur Instagram, l'auteur Zep a teasé un prochain récit d'anticipation avec un dessin plutôt intrigant. Sur celui-ci, on distingue un lion humanoïde qui semble déchirer la patte d'un insecte géant dans un accès de fureur. L'annonce indique que le récit devrait être publié chez Rue de Sèvres, où Zep a déjà publié le récit philosophique The End en 2018. À suivre donc chez cet éditeur, sachant que nous n'avons pas de date de parution annoncée. Une bonne nouvelle en direct du Japon, puisque l'auteur Gu Tanabe poursuit son exploration réussie des textes de l'auteur d'horreur américain H.P. Lovecraft. En effet, le magazine Monthly Comic Beam de Kadokawa a annoncé la prochaine adaptation du cauchemar d'Innsmouth. Un peu de patience pour retrouver le récit chez Kihun, son éditeur français, puisque la publication démarre seulement au Japon. L'occasion sera cependant possible de se replonger dans les trois opus déjà publiés, Les Montagnes Hallucinées, Dans l'Abîme du Temps, et plus récemment La Couleur Tombée du Ciel, dans un format extrêmement bon. Je vous invite à réécouter nos podcasts et les chroniques d'Anthony sur le sujet. Un autre artiste aussi actif sur Instagram, il s'agit de Milo Manara. L'auteur italien, surtout connu pour ses récits érotiques et son amour des jolies femmes, publie régulièrement depuis mi-mars des dessins hommages au métier qui continue à œuvrer pendant le confinement. Tout en retenue et sobriété, il nous présente des femmes qui, par l'exercice de leurs fonctions, sont toujours en activité pendant que nous sommes confinés à notre domicile. Bien entendu, elles sont vêtues et la colorisation à l'aquarelle rend les dessins de manière très très agréable. Afin de continuer à lire pour passer le temps pendant le confinement, certaines librairies ont commencé à mettre en place un système de click and collect sécurisé. Vous allez sur leur site, vous payez et on vous donne un rendez-vous pendant lequel vous pourrez aller chercher de manière sécurisée les ouvrages que vous avez commandés. Mais si vous souhaitez rester chez vous par sécurité, beaucoup d'éditeurs ont également pris des initiatives afin de vous permettre de continuer vos lectures de manière numérique. Parmi ces initiatives, on peut noter les éditions Bliss qui mettent à disposition plus de 1000 pages issues des intégrales du catalogue des éditions Valiant sans restriction depuis leur site. Nous avons également les éditions Kana qui offrent de la lecture numérique avec les tomes 1 de 32 de leur série. Le total des ouvrages devrait être porté à 50 dès aujourd'hui. Même opération du côté de l'éditeur Kazé avec les tomes 1 à 3 d'une dizaine de leur série disponibles gratuitement sur plusieurs plateformes de lecture en ligne. Et si toutefois vous n'êtes pas manga, c'est la Maison des Idées qui vous permettra de bénéficier d'une douzaine de leurs titres disponibles sur l'application Marvel Unlimited. Disponible sur Android et Apple, Marvel laisse entrevoir d'autres titres gratuits par la suite, donc à surveiller de près pour ne pas les louper. On continue avec deux news, deux annonces qui pourront laisser certains dubitatifs. La première avec de la BD franco-belge avec l'annonce par l'éditeur de jeux vidéo Microids de la mise en chantier en collaboration avec les éditions Moulinsart d'un nouveau jeu, vidéo bien sûr, basé sur le petit journaliste à houppette. Je parle bien entendu de Tintin. Si les informations sont plutôt lacunaires sur le genre lui-même, dont on ignore encore le nom et une éventuelle date de sortie, des indices laissent cependant supposer une aventure en plusieurs lieux à la place d'un seul. L'éditeur énumérant les déjà nombreux voyages de Tintin pour finir en annonçant de nouveaux périples. Cette coproduction prévue sur console et PC devrait permettre au jeune reporter belge de prendre sa revanche dans un milieu où ses adaptations n'ont pas laissé une trace plaisante ni indélébile. Microids devrait dévoiler des visuels et des détails très prochainement. Côté Soleil Levant maintenant, c'est l'annonce par Sony de la mise en chantier d'un film live de One Punch Man. Confié aux soins de Scott Rosenberg et Jeff Pinker, à qui l'on doit déjà Venom ou Jumanji, on sait déjà que l'on se dirige vers un blockbuster d'action que Sony semble vouloir décliner en franchise. À quel niveau d'adaptation aurons-nous droit entre l'adaptation désastreuse de Death Note ou encore le très correct Alita, la marge est plus trop grande. En cas d'échec, on pourra toujours se consoler avec les 19 tomes déjà disponibles chez Kurokawa ou encore les deux saisons de la très bonne série animée et sa très bonne version française. Et puis il finit avec une petite dernière pour la route. Les fans du duo de Gaulois les plus célèbres de la bande dessinée seront ravis d'apprendre qu'une toute dernière collaboration posthume aura bien lieu entre leurs deux papas. La collaboration en question, c'est l'adaptation en album illustré d'une histoire audio sortie fin des années 70 sous la forme d'un disque vinyle 33 tours et de son livret qui permettait de suivre le texte de l'histoire. Il s'agit en quelque sorte d'une réédition dont la remise au goût du jour a été supervisée fin 2019 par Uderzo lui-même. Nous retrouverons donc dans ce qui sera un album illustré le texte de Goscinny et 14 illustrations d'Uderzo. Les éditions Albert René annoncent un tirage de 100 000 exemplaires pour la modique somme de 9,99€. La version audio, écoutable encore aujourd'hui sur internet, sera proposée, elle, pour un tout petit euro. Une histoire où le duo de Gaulois cédera sa place au premier plan à l'inénarrable barde Assurance Tourix dans un concours de chant dans lequel il pourra gagner le fameux menhir d'or. Et je finirai ces news avec une brève, puisque l'éditeur Inis proposera prochainement dans son catalogue le roman Le Mystère des Pingouins de Tomihiko Morimi, à l'origine de l'adaptation en manga dont nous vous parlions lors de la dernière émission. C'est tout pour les news, je vous propose donc une petite pause musicale. C'est l'occasion de pousser un peu le son pour faire comprendre à votre désagréable voisin du dessus que vous n'avez peut-être pas de perceuse, mais que vous aussi, vous pouvez faire du bruit. Allez, c'est Helmut Fritz avec la version 2020 de Ça m'énerve.
Au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail. Mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison. Moi aussi j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle. Je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles qui sont plus épicoles à la quête mosse. Devant Bichat, la folie, ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard, on me dit non, tu repars. Ça m'énerve.
Ça m'énerve. Ça m'énerve.
J'appelle Amazon, une blondasse au téléphone me dit:
je peux vous aider?
J'ai plus de PQ, vous livrez. Elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve.
Elle m'énerve. Elle m'énerve.
J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit: Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit: Helmut, rentre chez toi.
Nous sommes en guerre.
Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian. Qui peuvent plus s'asseoir, arrêter le parmesan. Ça m'énerve, tous ces gens qui font la queue devant le Franprix. Tout ça pour des panzani. Mais bon, en 5 minutes c'est cuit.
Ça m'énerve.
Ça m'énerve.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours à l'écoute de la case de Seb. Et je vais commencer cette émission avec deux ouvrages issus de la nouvelle collection de l'éditeur Urban Comics. Avec le label Urban Link, l'éditeur a décidé de compléter son offre située entre les kids, 5-11 ans, et les adultes, avec une série de romans graphiques à destination de la nouvelle génération adolescente et jeune adulte, avec des titres connus et innovants, questionnant des thèmes de société et les enjeux de notre monde actuel. Les deux albums dont je vais vous parler sont des Origin Stories, reprenant la naissance et les premiers pas de personnages iconiques de l'univers DC. Je vais vous parler dans un premier temps de Teen Titans Raven, scénarisé par Camille Garcia et dessiné par Gabriel Piccolo sous les couleurs de David Calderon. L'histoire, c'est celle de Raven, une jeune adulte qui vit une période difficile. En effet, suite à un accident de voiture, sa mère adoptive a perdu la vie et Raven, la mémoire. Recueillie par sa tante à la Nouvelle-Orléans, elle va pouvoir tenter de se reconstruire en compagnie de sa demi-sœur Max. À une période où l'identification et l'affirmation de ses particularités sont extrêmement importantes, Raven doit faire face non seulement à une page blanche où ne figure même pas sa barre de chocolat préférée, mais également à d'étranges phénomènes visuels et auditifs qui se manifestent autour de la jeune femme. Et tout cela, bien sûr, sans compter sur l'amour naissant pour le beau Tommy Torres. Pour les non-habitués à l'univers DC, Raven est un personnage important de l'équipe des Teen Titans. La jeune femme est une empathe de très haut niveau puisqu'elle est capable de percevoir les pensées et émotions de presque n'importe qui, mais également d'influencer les gens et leurs actions en retour. Fille d'une humaine, Raven doit ses capacités spéciales à son père, Trigon, un démon sadique et cruel qui règne sur une autre dimension. Fréquemment, Raven doit faire face aux pulsions démoniaques que lui distille insidieusement son malfaisant patriarche. La relecture proposée par Camille Garcia replace Raven dans un environnement moderne et scolaire, plus proche d'un lecteur contemporain que ses habituelles aventures super-héroïques. Rendant plus facile l'empathie pour ce personnage qui doit découvrir qui elle est chaque jour, la fixant dans le présent pendant que ses camarades se projettent vers l'avenir et sont en train d'affirmer leur caractère en construisant les adultes qu'ils seront demain. Le récit, situé à la lisière du fantastique, dans une sorte de remake de Carrie modernisé, est très accessible et devrait plaire facilement aux adolescents en perte de repères, dans un corps encore changeant grâce à une identification forte au personnage principal. Le dessin, plutôt fluide et très moderne, est idéal. Le contraire aurait d'ailleurs été dommage pour ce type de récit et sa tonalité résolument neuve qu'il poursuit. Le tout est présenté dans des tonalités de gris, agrémentées de nuances violacées, couleur d'identification habituelle de Raven. Les seules autres couleurs utilisées le sont lorsque des personnages ou objets provoquent des émotions vis-à-vis de Raven, renforçant alors l'identification des interactions émotionnelles que subit la jeune femme. Au final, il s'agit d'une origin story rafraîchissant l'image de la petite gothique complexée et asociale que le personnage se traîne depuis sa création dans les années 80. Grâce à sa fin ouverte, l'histoire pourrait servir de point d'entrée auprès de ce personnage complexe et central dans de nombreux récits des Teen Titans, ou encore se suffire à elle-même, ce qui serait quand même pourtant dommage. Alors je redonne les références, Teen Titans, Raven, scénarisé par Camille Garcia, et dessiné par Gabriel Piccolo sous les couleurs de David Calderon. C'est publié dans la collection Urban Links par Urban Comics. Toujours dans cette même collection, je vais à présent vous parler d'Harley Quinn Breaking Glass, scénarisé par Mariko Tamaki et dessiné par Steve Pugh. Est-il encore besoin de présenter le personnage popularisé à outrance, notamment grâce à l'interprétation par Margot Robbie dans le film Suicide Squad et plus récemment Birds of Prey? Ok, alors pour ceux dans le fond qui lèvent la main, voici un bref résumé. Apparue pour la première fois dans la série animée de Bruce Timm et Paul Dini, Harley Quinn est une antagoniste récurrente de l'univers de Batman. À l'origine brillante psychiatre, la jeune femme est dévoyée et contaminée par la folie du Joker pour devenir à la fois sa comparse et sa souffre-douleur. Dans l'ouvrage qui nous intéresse ce soir, point de tout cela, puisque Mariko Tamaki a choisi d'offrir une nouvelle origin story à ce personnage qui, depuis quelque temps, prend un statut d'héroïne borderline plutôt que de vraie vilaine. L'histoire, c'est celle d'Harlan Quinzel, une jeune d'une quinzaine d'années, envoyée par sa maman vivre quelque temps chez sa grand-mère à Gotham City. Malheureusement, la vieille femme ayant passé l'arme à gauche, c'est auprès de Mama, une drag queen au cœur d'or et des nombreuses extravagantes amies, que la jeune femme va pouvoir trouver une épaule secourable et un nouveau foyer. Loin d'être laissée libre de ses occupations, la jeune fille accomplira tout de même des tâches de son âge et ira à l'école, se liant par la même occasion avec la fille d'un couple d'activistes écolos, la jeune Ivy DuBarry. Mais lorsque ses bienfaitrices sont menacées d'expulsion par un riche industriel, Arlene est bien décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Elle fait alors la connaissance d'un individu masqué, bien décidé lui aussi à mettre le feu à la belle ville de Gotham, peu importe les dommages collatéraux. Entremêlant passages scolaires, activités nocturnes de justicière et fables sociales, Mariko Tamaki réussit le tour de force de proposer une nouvelle naissance à ce charmant harlequin. Si les thématiques abordées vont bien au-delà de la seule justice sociale, ce sont également la maltraitance et la pauvreté qui sont évoquées à travers les flashbacks familiaux de la jeune Harley. Ces passages montrent en effet une enfance difficile et prouvent que, déjà, enfant, Harley n'avait pas besoin de la folie du Joker pour se laisser aller à des actes où transpire une folie spontanée, bien dangereuse malgré une insouciance non feinte. L'écriture des personnages est fine et pleine de nuances, à l'image de cette Harley au cœur pur, mais à la dangerosité certaine. Ou encore, à son inverse, avec ce Joker balbutiant, à l'intelligence froide et la méchanceté certaine. De nombreux clins d'œil à l'univers du Dark Knight parsèment l'ouvrage, preuve qu'il est possible d'avoir des protagonistes intéressants sans pour autant être dissimulé dans l'ombre de sa cape. Graphiquement, l'ouvrage n'est pas en reste, avec le trait précis de Steve Pugh qui offre, bien plus que des visages, des gueules très vivantes à ses personnages, notamment grâce à des cadrages que l'on pourrait croire sortis d'un western spaghetti. Les couleurs sont pour la plupart des ambiances chromatiques avec des symbolismes forts qui, même si elles sont de prime abord dédiées à certains personnages, pourront y changer de protagoniste en fonction des émotions relayées. Le tout est rehaussé de nombreux et efficaces ombrages permettant de nuancer et donner plus de vie et de relief à l'ensemble. Harley Quinn Breaking Glass est non seulement une lecture agréable, mais également la preuve qu'il est possible de créer un récit riche et moderne dans l'univers de Batman sans pour autant y insérer Bruce Wayne. Ou presque. Je redonne les références, il s'agit d'Harley Quinn Breaking Glass, scénarisé par Mariko Tamaki, dessiné par Steve Pugh, publié chez Urban Comics dans la collection Urban Link. La collection compte également deux autres titres que je vous invite fortement à découvrir, Catwoman Under the Moon et Black Canary New Killer Star. Je vous propose de nous retrouver après une nouvelle pause musicale. On va écouter Sidi Larsen avec On va tous crever.
Au centre de l'univers, au rêve.
Vous êtes toujours à l'écoute de la case de Seb sur le 101.5 de Radio G. C'était Sidi Larsen, on va tous crever. Une chanson un peu pessimiste, certes, mais parfois un bon coup de pied dans le fondement ne fait pas de mal à entendre. Sans transition, je vous propose de découvrir, grâce à la douce voix de mon épouse, une chronique que nous a écrite mon cher ami Anthony, que j'en profite pour saluer.
Donc je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Le mari de mon frère, de Jengoro Tagame, aux éditions Akata, paru en mai 2015. C'est une série en 4 tomes. Je pense que nos meilleures lectures se font quasi sur un coup de chance. Je m'explique. Que ce soit en matière de bande dessinée ou tout autre support, avez-vous déjà ressenti ce frisson de faire une découverte inattendue que personne d'autre n'a faite ? Il n'y a pas de meilleur exemple pour illustrer ce sentiment que le marché du livre d'occasion. Et ce que je me prête à vous livrer en vous parlant d'un petit bijou que j'ai moi-même trouvé dans le rayon manga d'occasion de mon libraire habituel. Je fouillais là-dedans car par le passé, c'est là que je trouvais des séries courtes pour bien moins cher qu'en temps normal. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je tombais nez à nez avec le premier tome du mari de mon frère. Voilà un manga que je voulais absolument lire il y a des années. Je m'étais promis de me le prendre. Je l'avais oublié et voilà qu'après 5 ans, il réapparaît devant mes yeux. C'est ça le sentiment dont je vous parlais, ce sentiment de destinée qui vous réunit, vous et ce livre. Alors, le mari de mon frère, de quoi ça parle ? On nous raconte l'histoire de Yaichi, jeune père au foyer, veuf, élevant seule la petite Kana, et pour couronner le tout, ayant récemment perdu son frère jumeau. Youpi ! Mais voilà, son quotidien va être perturbé par l'arrivée de Mike dans sa vie. Ce Canadien imposant n'est autre que le mari de son frère. Suite au décès de ce dernier, Mike est venu au Japon pour y réaliser une quête identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait. Yaichi, bien que très gêné, n'a alors pas d'autre choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère homosexuel vis-à-vis de qui il ne sait pas comment il doit se comporter. Si l'ambiance de ce synopsis peut vous sembler pesant, sachez que l'auteur Jengoro Tagame a su faire sortir la vérité de la bouche de la petite Kana. C'est par elle et sa spontanéité que Mike trouvera sa place et la possibilité d'être compris et d'être accepté, ce qui s'avérera être une bonne chose pour que nos deux protagonistes puissent faciliter leur deuil. Vous l'aurez compris, ce manga va permettre de faire sauter quelques idées reçues et autres clichés sur l'homosexualité. Et plus que ça, l'auteur se permet, entre chaque chapitre, de placer un petit cours de culture gay, comme l'histoire du triangle rose et bien d'autres. Question de dessin maintenant, on retrouvera ici un Japon des plus réalistes et contemporains. Les traits sont fins et les visages transmettent très bien les émotions, chose importante dans un manga à la mélancolie assumée. Le dessin en ambiance est communicatif. J'avais l'impression d'entendre la voix de cette petite Kana à côté de moi quand je lisais et l'imaginer courir en rigolant, comme un enfant sait si bien le faire, n'est-ce pas Seb ? Outre la fraîcheur de la petite, les formes de Yaichi et Mike ne sont pas sans rappeler quelques codes de la culture gay cités plus haut. Des bustes larges et puissants que l'auteur, on le sent, a pris plaisir à dessiner et à mettre en valeur dans pas mal de planches. Assez nombreuses pour les apprécier et suffisamment discrètes pour qu'elles n'empiètent pas sur le récit. Une aubaine quand on apprécie ce genre de vision et les belles histoires. Pour résumer, l'auteur, par son récit et son trait, réussit à nous captiver et à rendre chacun de ses personnages attachants. C'est un manga touchant, transpirant la mélancolie et l'amour, mais aussi possédant une valeur un brin éducative qui n'est pas jetée par les temps qui courent. En un mot, commençant, achète. C'est Le mari de mon frère de Jengoro Tagame aux éditions Akata et c'est en 4 tomes.
Une chronique écrite par Anthony, lue par mon épouse. Quand je vous ai dit qu'on allait avoir des guests, je ne vous ai pas menti. Je continue avec moi aussi du manga avec le très beau Mes voisins les esprits de Shirotori Uchiyo aux éditions Doki Doki. Alors si ce n'est pas tout récent, ma découverte de ce titre qui date de la fin d'année dernière a pourtant été une agréable surprise. En effet, la couverture a de quoi attirer l'œil. Sur celle-ci, très colorée, on distingue une jeune fille japonaise à l'air apeurée, adossée à un tori, cette sorte de barrière japonaise typique, et entourée de tout un tas de créatures fantastiques ayant pourtant l'air amical. J'imagine certains d'entre vous déjà sourire, mais rien ne s'alasse dans cette couverture, tout ce qu'il y a de plus sage. Si le dessin n'était pas si différent, on pourrait même y retrouver une composition proche de celle du studio Ghibli. C'est bien une couverture, Seb, mais de quoi ça parle, me direz-vous ? Alors, comme dirait Anthony, c'est le moment du résumé. Je sais, Anthony, je le fais moins bien que toi. Yashio est une jeune femme qui vient d'emménager dans une vieille maison, quasiment à l'abandon avec son père. Enfin non, elle est quasiment seule puisque son père, chercheur spécialisé, passe le plus clair de son temps hors du domicile, la laissant vaquer à ses occupations. Dans cette maison, auparavant occupée par un homme ayant fait des recherches sur les créatures fantastiques, Yashio va se mettre à la recherche du livre nommé « Les notes sur le royaume des morts », un livre censé pouvoir l'aider à retrouver sa mère disparue. Pendant ses recherches, Yashio va rencontrer une créature du nom de Moro, chargée d'envoyer l'âme des créatures fabuleuses vers le monde éternel. La créature va alors embaucher la jeune femme pour l'aider dans son travail. C'est alors pour cette dernière le début de la découverte d'un monde d'étranges créatures invisibles pour le commun des mortels. Sans être révolutionnaire, le récit dont le lecteur attentif pourra deviner rapidement les enjeux nous envoie à la découverte des yokai. Ces monstres du folklore japonais qui hantent et rythment les différents événements du quotidien. Au fur et à mesure des rencontres, l'héroïne va apprendre à connaître et apprivoiser, voire se lier d'amitié avec tout un bestiaire seulement connu par de vagues légendes ou histoires racontées par de vieilles personnes. Elle découvre alors une civilisation qui, malgré une apparence chaotique, est régie par des lois et règles ainsi que des gardiens pour les faire appliquer. Comme Moro, qui dans son rôle doit faire entendre raison aux créatures trop vieilles pour accomplir leurs tâches, afin de les envoyer vers le grand repos, hein, quitte à devoir leur forcer un petit peu la main parfois. Ici, le dessinateur a choisi de ne pas mettre en avant le côté effrayant habituel de ces créatures, préférant utiliser son dessin précis et fin pour affirmer tout en détail la belle étrangeté de ces êtres. Le découpage efficace et rythmé n'hésite pas à laisser de temps à autre la place à une belle illustration en pleine page afin de permettre au récit de rester dans son optique de découverte parfois contemplative. Sans pour autant être inoubliable, les deux volumes actuellement disponibles chez Doki Doki se dévorent pourtant sans forcer et avec un grand plaisir. Je redonne les références, Mes voisins les esprits de Shirotori Uchiyo, c'est publié aux éditions Doki Doki. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avec Pornographity et le morceau The Day, le très péchu générique de l'anime My Hero Academia.
101.5 FM.
Toujours à l'écoute de la case de Seb en pas direct du 101.5 de Radio G. C'était Pornographity avec la chanson The Day. Pour varier un peu, je vous propose à présent une critique cinéma. Alors oui, je vous entends déjà hurler, mais rassurez-vous, il y a bien un lien avec la BD puisqu'il s'agit d'une critique de Bloodshot, l'adaptation du populaire héros de l'écurie Valiant, un héros de comics bien entendu. Ce sera d'ailleurs pour moi l'occasion de revenir sur ce héros et sa version de papier publiée aux éditions Bliss Comics dans une prochaine émission. Bloodshot est un film réalisé par Dave Wilson, que je ne connaissais pas, dont c'est le premier film, et distribué par Sony. Au casting, on retrouve le musculeux Vin Diesel dans le rôle-titre, Eiza Gonzalez, Sam Hugman, et Guy Pearce, entre autres. Confinement oblige, le film est donc sorti en vidéo on demand le 26 mars 2020 et sera disponible sur la plateforme Amazon Prime à partir du 28 avril. L'histoire, c'est celle de Ray Garrison, un soldat qui, suite à une mission, verra son épouse mourir sous ses yeux avant d'être lui-même tué par un psychopathe. Revêche, Ray n'oubliera pas de promettre à son tortionnaire de revenir se venger avant de passer de vie à trépas. Un temps non défini plus tard, il est réanimé par un scientifique qui lui annonce avoir fait de lui un guerrier ultime, bourré de nanites. Les nanites sont des petites créatures qui ont remplacé le sang de Ray et sont capables de petits prodiges super-héroïques. Le soigner en un temps record, décupler ses capacités physiques et ses sens, et même se connecter à distance à des ordinateurs et aux réseaux d'information. Ce scientifique travaille pour la société Rising Spirit, ce qui en fait, qui fait de Ray le projet le plus abouti dans cette société qui travaille à l'augmentation de soldats estropié. Mais voilà que des bribes de mémoire reviennent à Ray, et avec ces bribes de mémoire, une envie de vengeance contre le meurtrier de sa femme. Je vous l'ai dit, il est revêche le Ray. Si jusqu'ici l'histoire vous paraît classique, ben c'est plutôt normal. C'est surtout parce que c'est un scénario implanté dans le cerveau de Ray afin de l'orienter vers des cibles à tuer pour le bien de Rising Spirit. Ce scénario, effaçable à volonté de l'esprit de Ray, est bien entendu modulable pour s'adapter aux divers besoins d'élimination. Alors vous imaginez bien que tout ne va pas se passer aussi bien que Rising Spirit l'aurait souhaité. Alors je ne dévoilerai pas plus l'intrigue, hein. Le premier segment que je viens de vous dévoiler couvre déjà près de 45 minutes d'un métrage qui en fait au total pas loin de 2 heures. Et c'est sans doute par là que le bât blesse, puisque cette première partie, celle qui nous donne envie d'aller vers la suite, est globalement plutôt classique et déjà vue pour un film d'action, ce qui ennuiera sans doute ceux qui sont à la recherche de nouveautés. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un scénario tout à fait classique si on veut stimuler un personnage sans avoir besoin de se fouler à faire des nouveaux scénarios très élaborés à chaque fois. L'intégration dans ce passage d'éléments servant d'indice permet aux spectateurs de déceler des incohérences probables dans la réalité. Et ça, c'est le petit point qui intrigue. On se dit, tiens, ils ont raté des choses, alors qu'en fait, non, c'est volontaire. À ce jour, ma comparaison avec le comics ne s'établira que sur les 100 pages disponibles gratuitement sur le site de l'éditeur, puisque j'ai pas eu l'occasion d'avoir entre les mains un ouvrage complet. Et très vite, on s'aperçoit que le long métrage se base sur ces fameuses 100 pages de découverte que propose l'éditeur. Ça les transforme en origin story que l'on devine un point d'entrée pour une franchise possible, mais on en reparlera un petit peu plus loin. Réadapté visuellement pour le cinéma, on retrouve un Vin Diesel en t-shirt et Marcel, avec une espèce de halo qui transparaît quand il utilise ses nanites, un halo rouge au niveau de son torse, et les fans de Bloodshot auront quand même le droit à quelques passages se rapprochant de l'identité visuelle d'origine. Ce fameux rond rouge au milieu du torse, qui est plutôt lumineux, une peau blanche et les yeux rouges, les cheveux en moins. Graphiquement, les effets de nanites sont plutôt réussis, même si la bande-annonce, je pense qu'elle en montrait déjà trop, condensant certains passages pour faire beaucoup de tape à l'œil. Alors le seul regret personnel que j'ai, et quelque chose qui était peut-être difficile à faire graphiquement, c'est que dans le comics, Ray interagit avec les différentes mémoires qu'il peut avoir sous la forme de personnages orangés, ce qui fait qu'il discute avec ces personnages, lui donnant un air un petit peu fou. Et cette petite trouvaille que je trouvais vraiment fun dans le comics est totalement absente du film, même si une courte scène pourrait tout de même y faire penser. Alors loin d'être totalement inintéressant, hein, le film souffre cependant d'une mise en scène beaucoup trop classique de films d'action sérieux. Voilà, les gars, sans vouloir copier l'humour et la décontraction des films Marvel, une petite pointe d'humour un peu plus diluée tout au long du film aurait été la bienvenue. Les seules notes d'humour qu'on peut trouver proviennent de deux personnages qui ont une fonction similaire, et on a l'impression que bah voilà, c'est ce type de personnage qui fait des blagues, et le reste c'est pas du tout de l'humour. Quitte à parler des personnages, hein, puisqu'on y est, les seconds rôles sont très peu développés, hormis un, et c'est ce manque de matière qui n'aide pas à créer des liens qui sont nécessaires à une quelconque empathie, hein, positive ou négative d'ailleurs, envers les personnages ou les antagonistes. Alors sans doute conscient de ces clichés, le film n'ose pourtant pas en jouer ou aller jusqu'au bout de certains axes, ce qui lui aurait pourtant permis de s'élever au-delà du simple blockbuster d'action. En 2015, j'en parlais tout à l'heure, Sony annonçait vouloir créer un univers Valiant avec une base de 5 films. C'est une annonce qu'on a pu recouper avec un visuel posté sur le compte Instagram de John Cena, le dernier venu, hein, dans la famille des Fast and Furious. Un visuel sur lequel on pouvait retrouver un autre personnage de l'univers Valiant Comics, Ixo Manowar. Alors je peux pas en parler beaucoup plus, que c'est un personnage que je ne connais pas vraiment dans le détail, je vais me pencher dessus d'ailleurs, mais de ce que j'en ai compris, c'est imaginer Conan le Barbare coincé dans un exosquelette futuriste. Donc ça peut être déjà assez original et donner vraiment envie. Alors seul l'avenir nous dira, hein, si cet univers survivra à ce premier film et au succès qu'il devait avoir attendu. Au final, si le film n'est pas franchement parlé une réussite, il pourra cependant donner envie, comme à moi, de découvrir le héros d'origine et l'univers Valiant que je ne connaissais quasiment pas, tout en divertissant les fans de Vin Diesel ou d'action débridée, que ça devrait satisfaire amplement. Si vous êtes fan des franchises Fast and Furious, je pense que vous devriez y retrouver tout à fait ce que vous recherchez. Voilà, donc c'était une chronique assez rapide, hein, sur Bloodshot, qui vient tout juste de sortir. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, écoutez, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez profiter du film sur vos écrans. Allez, on fait une dernière pause musicale avec Avamax Torn. I wish the lows were higher.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, chers auditeurs. C'est toujours la case de Seb. Pour la chronique suivante, je laisse la parole à mon épouse qui va vous parler d'un ouvrage plutôt atypique.
Bonsoir, et oui, c'est encore moi. Ce soir, je viens vous parler de L'Éveil, une BD franco-belge de Thomas Campi et Vincent Zabu. Donc des auteurs à qui on devait déjà Les larmes du seigneur afghan et encore Macaroni. Paru aux éditions Delcourt. Donc là, le narrateur, qui est aussi le personnage principal, Arthur, hypochondriaque, nous raconte comment il a découvert des traces d'une bête monstrueuse en plein Bruxelles et comment il a rencontré Sandrine, une jeune activiste. Donc cette découverte et cette rencontre vont complètement bouleverser sa vie. Il faut dire que la vie d'Arthur est pas terrible, terrible, c'est pas folichon, tout va mal, tout l'inquiète. Il fait souvent ses petites crises, hypochondriaque, franchement pas facile, mais il se soigne, il s'accroche. Et un soir, au cours d'une de ces fameuses crises, là où les doigts qui picotent, là, les mains qui picotent, il va pas bien, il sort prendre l'air. Et là, il manque de se faire écraser par une énorme branche, il tombe d'un arbre, comme si elle avait été, mâchouillée, ou une énorme forme de mâchoire dans le tronc, comme si une bête énorme, mais vraiment énorme, avait croqué cette branche. Et c'est là qu'il rencontre Sandrine, qui va l'aider et qui va l'emmener à la quincaillerie. Il va découvrir la quincaillerie, un lieu de rassemblement qui a été ouvert donc dans une ancienne quincaillerie, une actuelle, vraiment une quincaillerie avec tous ses meubles à tiroirs, dans lesquels chacun peut amener ce qu'il veut, prendre ce qu'il veut. C'est un lieu d'échange, donc d'objets, mais aussi d'idées, où chacun ramène, comme l'explique Sandrine, tu viens manger à deux, bah tu ramènes à manger pour trois. Et chacun va se retrouver, ils vont mener leurs actions ensemble, c'est complètement du bénévolat. Ça fonctionne entièrement grâce à une association. Et depuis ce lieu, du coup, Sandrine va... Elle mène son combat. Elle a décidé d'éveiller la conscience des habitants de Bruxelles à ce qui se passe autour d'eux. Mais rien que ça, quoi. Rien que ça. Elle veut éveiller le monde, elle veut que les gens se posent des questions. Et elle va emmener Arthur dans cette quête. Ce qui va beaucoup, beaucoup l'aider, justement, à s'éveiller, ce brave Arthur. On va le voir petit à petit aller mieux, se sentir mieux, sortir de sa coquille. Et il va vraiment, vraiment changer, vraiment s'éveiller. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une BD très, très poétique, déjà, sur le thème, sur le fond. Là, j'aime beaucoup le dessin, bien sûr, ça, c'est rien de le dire. Les couleurs peuvent paraître assez ternes, mais ça évolue tout doucement en même temps qu'Arthur. On sent qu'il y a un petit quelque chose. J'ai beaucoup aimé la façon dont Arthur, justement, Arthur s'adresse directement à nous, tout en revivant donc cette histoire qu'il nous raconte et comment il nous éclaire en aparté. C'est assez particulier parce que, comment dire, il va nous retranscrire tous ces dialogues intérieurs qu'il a dû se faire à ce moment-là. Mais du coup, on voit vraiment les personnes, des personnages qui ont commencé à lui parler. Et il va nous dire, non, faites pas attention, ils sont pas vraiment là. C'est mon inconscient. C'est mon inconscient. C'est-à-dire qu'on va voir sa mère, on va voir lui plus jeune. Et ils vont dire, mais tu fais quoi? Sa mère fait, attention. Sa mère dit beaucoup, attention. On se demande pas comment il est devenu complètement... pauvre Arthur. Enfin bref. Et des fois même, il pleut uniquement sur Arthur. S'il est pas bien, il pleut sur lui. Et comment dire, cette façon de rendre visible tous ces troubles, de retranscrire tous ces troubles, comme sa main qui se détache parfois du reste de son corps, ça nous permet aussi de cerner un peu mieux le ressenti d'Arthur. Et j'ai trouvé vraiment cette façon de retranscrire tout ça très 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 particulière, certes, mais aussi très intéressante. Et ce que j'ai appris moi en fin d'album, parce qu'il y a un petit mot là-dessus, c'est qu'on apprend que en fait cette quincaillerie qui est au centre de l'album, a vraiment existé à Bruxelles. Elle a vraiment été rouverte, en fait, par un front social qui s'appelle les Temps Présents. Et entre septembre 2015 et janvier 2016, pour être un lieu, justement, de débat et d'échange sur tous les sujets qui agitaient l'Europe à l'époque. Voilà. Donc, c'était L'Éveil de Vincent Zabu et Thomas Campi aux éditions Delcourt.
C'était mon épouse Charlène qui vous parlait de L'Éveil, scénarisé par Thomas Campi et dessiné par Vincent Zabu. Thomas Campi vient d'annoncer sur sa page Facebook qu'à cause du confinement, la sortie de l'album est décalée à juin. Ce sera l'occasion, si cette chronique vous a tenté, de pouvoir découvrir cet album chez votre libraire dès la réouverture des boutiques. Le confinement a ça de bon que, faute de journée à travailler, l'on peut facilement expurger sa pile à lire. C'est ce que je me suis attelé à faire, et si elle n'est toujours pas vide, j'ai quand même réussi à la faire descendre de quelques étages. Cela m'a permis de lire le dernier opus de la série anthologique Android, perdu au milieu de mon stockage ascensionnel depuis au minimum janvier. L'occasion pour moi de vous faire découvrir, et ou redécouvrir, cette collection originale de science-fiction. Pour les néophytes, voici la définition donnée par Wikipédia d'un androïde. L'adjectif androïde désigne ce qui est de forme humaine, étymologiquement ce qui ressemble à un homme. Un androïde est un robot construit à l'image d'un être humain. La dénomination androïde évoque l'image d'une machine. Le mot droïde dérive de ce terme. Les androïdes doivent être distingués des cyborgs qui, eux, sont des organismes dont on a reconstruit l'organisation en fonction des logiques du vivant, généralement représentées par une créature qui mêle des parties vivantes et mécaniques. Et c'est bien entendu tout le sujet de cette collection, donner l'opportunité à différents auteurs d'explorer ce que ce vaste sujet de SF populaire peut donner. L'usage habituel de l'androïde en littérature de science-fiction permet souvent d'interroger le lecteur sur ce qui rend l'humain unique, le différenciant ainsi de la machine. Au cours des 7 tomes existants à ce jour, ce sont des auteurs comme Louis, Olivier Perru, Visca, Geyser ou encore Jean-Luc Istin qui ont pu s'essayer avec des réussites variées à cet exercice. L'ouvrage qui retient notre attention aujourd'hui est donc ce fameux tome 7, nommé La Dernière Ange. Il a été confié au stylo de Jean-David Morvan et au crayon d'Elia Bonetti. C'est publié aux éditions Soleil, j'ai oublié de le mentionner. Alors commençons par un court synopsis. La Dernière Ange prend place dans un monde futuriste où l'humanité, qui a conquis et colonisé de nombreuses planètes, fait face aux attaques, aussi brèves, rapides et mortelles, d'une race extraterrestre inconnue. Les anges du titre sont des androïdes de forme féminine, ayant pour mission de recueillir les données stockées sur le Brain Bis, sorte de disque dur cérébral des personnes tombées sous le coup de l'envahisseur. Capables de se rendre d'un point à un autre de l'univers connu très rapidement, ces anges constatent à chaque fois la violence des conflits qui ne laisse généralement aucun survivant. Je dis généralement parce que lors d'une de ces missions, une de ces anges va rencontrer un rescapé. Alors je ne vais pas aller plus loin pour ne pas vous divulguer les rebondissements du scénario, qui sont plutôt nombreux, mais avouez que ce serait quand même dommage. Si à travers le scénario de Jean-David Morvan, on parle bien évidemment de la conscience avec l'éveil de celle de l'ange, androïde, il questionne également la notion de libre arbitre qui en découle. Si à travers le scénario, Jean-David Morvan parle évidemment de la conscience avec l'éveil de celle de l'ange, l'androïde, il est question également de la notion de libre arbitre qui en découle forcément. Les relations aux autres et l'écologie, même si ce sont des thèmes plus discrets, sont également présents en filigrane. Les attaques des extraterrestres n'étant ni aveugles ni anodines, vous vous en doutez bien. On pourrait regretter qu'il n'y ait pas plus de second rôle marquant, mais l'histoire s'articulant principalement sur deux personnages, Jean-David Morvan a sans doute préféré se focaliser sur le parallèle qui peut être fait entre leurs deux parcours. Au niveau dessin, l'ensemble est plutôt agréable, avec des cadrages qui, même s'ils sont en général plutôt classiques, avec des cases en long, restent globalement efficaces et dynamiques. On retrouve régulièrement de grandes ruptures en splash page complète ou partielle pour mettre en avant soit l'immensité spatiale ou la dynamique des vaisseaux ou encore l'immensité de la mémoire. Dans le détail, les environnements urbains sont bien rendus de manière claustrophobique sur des décors futuristes par petites touches permettant au lecteur de ne pas être trop perdu dans un environnement peu familier. Les personnages ne sont pas en reste et les émotions bien lisibles sur les visages, le tout dans des couleurs plutôt neutres où l'éclairage et les reflets donnent plus de volume et de force à la transmission de ces fameuses émotions. Au final, La Dernière Ange est un album qui distille réflexion et action de manière équilibrée, permettant au lecteur d'amorcer une réflexion s'il le souhaite, sans pour autant de rester un divertissement à la manière d'un film cinéma. Je redonne les références. Android tome 7, La Dernière Ange, c'est de Jean-David Morvan et Elia Bonetti, c'est publié aux éditions Soleil et c'est sorti le 22 janvier.
That's all, folks.
Et oui, Porky vient de l'annoncer, c'est la fin de l'émission. Il me reste quelques instants pour vous souhaiter une bonne soirée, en espérant que les conseils de lecture que je vous ai donnés vous ont fait envie, que vous allez pouvoir passer le temps et au moins préparer votre liste d'achat post-confinement. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.